Radio Okapi.
À la une de l'actualité ce soir, renforcement des contrôles des véhicules à Kinshasa. Le gouverneur de la capitale durcit les mesures de contrôle des documents sur les principales artères. Blaise Shindani Kambala nous explique les nouvelles dispositions et leur application dans quelques instants. Six jeunes du mouvement Génération Z arrêtés à Beni, au Nord Kivu, lors d'une manifestation marquant le premier anniversaire de l'occupation de Goma par l'AFC M23. Une situation que dénonce le mouvement exigeant la libération immédiate de ses membres. Un an après la chute de Goma, les blessures restent vives. Une commerçante raconte comment la prise de Goma par l'AFC M23 le 27 janvier 2025 a détruit son activité et traumatisé sa famille, laissant des séquelles profondes au sein de la population. Vous l'entendrez. Bonsoir à tous. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a renforcé les mesures de contrôle des documents des véhicules sur les principales artères de la capitale. Quelles sont ces nouvelles dispositions et comment seront-elles appliquées? Élément de réponse dans ce reportage de Blaise Shindani Kambala.
Dans une vidéo publiée hier lundi, Daniel Bumba annonce qu'il y aura 3 shifts par jour. Ceux qui sortent dès 5h30, la deuxième équipe prend la relève à 12h et la troisième équipe commence à 17h jusqu'à minuit. Suivez Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa.
Cette mission sera shiftée en 3 phases. Dès 5h30, vous êtes déjà au carrefour où vous êtes commis. À 12h juste, la première équipe quitte et la deuxième commence. À 17h, la troisième équipe commence et c'est jusqu'à minuit. Sachez que les équipes techniques travaillent de telle manière que ça ne pèse pas sur vous. Il y aura des permutations ainsi que des changements.
En réaction, certains Kinois pensent que ces nouvelles dispositions vont perturber la mobilité des usagers de la route.
Le travail en RDC se termine à 17h. Mais prolonger le contrôle jusque vers 23h, pourquoi? Que voulez-vous à la fin? Le mal en est que notre génération, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, on n'a payé aucune taxe. Alors si on veut normaliser la chose aujourd'hui, nous crions au scandale alors qu'un pays doit avoir des lois et règlements.
Pour éviter les tracasseries, plusieurs propriétaires des véhicules ont décidé carrément de garer leurs véhicules.
Pendant ce temps, la Société nationale d'électricité SNEL, direction provinciale du Kassai-Oriental, a lancé dimanche dernier l'opération de déterrement d'une centaine de poteaux électriques implantés au milieu de la chaussée de l'avenue Inga à Mbujimayi. Ce tronçon de la route nationale numéro 1 est actuellement en pleine modernisation. L'objectif est de faciliter l'élargissement de la route afin d'obtenir 2 bandes dans chaque sens de circulation. Des explications avec Esther Dalafina.
Selon le directeur provincial de la SNEL, Jean-Crispin Mukendi, 14 poteaux métalliques ont déjà été retirés de la route lors de cette première phase entre le rond-point Kalalawankata et le siège provincial de la société de téléphonie Orange. Pour mener à bien ces travaux, des engins ont été mobilisés auprès d'autres entreprises engagées dans la modernisation des routes de la ville. Le responsable de la SNEL précise que des poteaux déterrés seront réutilisés. Toutefois, avant d'entamer la deuxième phase, les trous laissés par ces infrastructures devront être remblayés par l'entreprise chinoise Grec 7 chargée de moderniser l'avenue Inga afin d'éviter tout risque d'accident.
Nous avons laissé d'abord Grec 7 compacter les 14 trous. Nous avons déterré les poteaux. Dès qu'ils terminent à compacter, on rend propre la première partie et nous entamons la deuxième partie, les poteaux béton.
Signalons qu'un accord financier a par ailleurs été conclu entre la SNEL et l'Agence congolaise des grands travaux ACGT pour le déterrement et le déplacement d'une centaine de poteaux électriques qui ont été replacés après le canal. Cette opération marque une étape importante dans l'accélération des travaux de modernisation de l'avenue Inga, axe stratégique de la RN1. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Suite Kivu, les activités ont été autorisées à reprendre ce mardi sur les lacs Tanganyika, 1 mois et demi après leur suspension consécutive à l'occupation de la ville d'Uvira par les rebelles de l'AFC M23. La décision a été annoncée par le gouverneur Jean-Jacques Purusi, puis mise en application par l'administrateur du territoire de Fizi. Sami Kalonji Badibanga indique que tous les échanges commerciaux par voie lacustre reprennent entre Uvira, Fizi, Kalemie ainsi qu'avec les Burundi, la Tanzanie et la Zambie. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
Comme annoncé la fois passée de la fermeture de toutes les activités lacustres sur le lac Tanganyika, dans le but d'éviter et de prévenir l'infiltration des éléments M23 vers le sud du territoire de Fizi en direction de la province voisine de Kalemie. Aujourd'hui, mardi 27 janvier, je déclare ouvertes toutes les activités commerciales lacustres sur le lac Tanganyika. Ces mesures sont prises par l'autorité provinciale afin de soulager toute cette population qui a trop souffert et surtout les commerçants qui ont été privés de toutes les activités suite à l'occupation de la ville d'Uvira. Tous ces trafics lacustres, échanges commerciaux sont désormais autorisés. Les bateaux, les bottes, les navettes à naviguer sur le lac Tanganyika, de Kalemie vers Uvira, d'Uvira vers Kalemie, de Fizi vers Kalemie, de Fizi vers la Zambie, vers la Tanzanie, vers le Burundi, sans aucune difficulté.
Toutefois, les autorités provinciales appellent les services de sécurité opérant aux frontières à faire preuve de rigueur, de vigilance et de maintenir une alerte maximale. Selon l'administrateur du territoire de Fizi, l'AFC M23 pourrait tenter une incursion à tout moment. Comme annoncé au sommaire, au Nord Kivu, 6 jeunes ont été arrêtés ce mardi à Beni, chef-lieu provisoire de la province, lors d'une manifestation du mouvement Génération Z. L'action marquait le premier anniversaire de l'occupation de Goma par l'AFC M23. Les manifestants expliquent vouloir attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur la nécessité de respecter la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à préserver la paix dans la région des Grands Lacs. L'un d'eux, parlant sous anonymat au micro de Marc Marofim, dénonce l'intervention policière et réclame la libération de ses camarades détenus au commissariat urbain. Suivez.
C'était une activité purement pacifique. Nous déplorons et nous condamnons l'ajustement de nos policiers qui viennent de faire de la répression sanglante de cette manifestation. Il y a nos collègues qui viennent d'être interpellés à la mairie. Nous ne savons pas si notre police est là pour la complaisance ou bien si elle est là pour jouer au professionnalisme. Nous sommes en train de plaider plus de 9000 personnes massacrées par l'armée rwandaise à Goma. Nous sommes en train de plaider plus de millions de personnes victimes des massacres des ZDF Nalu ici dans le Grand Nord. Mais malheureusement, c'est très déplorable de voir que certains policiers mal intentionnés sont en train de réprimer une activité de mémoire. Ça, c'est un acte de mémoire. Ça, c'est une manifestation de résilience et de solidarité. Nous solidarisons avec la population de Goma qui est prise en otage par l'armée rwandaise en ce moment même. La constitution de notre pays doit être respectée. Et c'est pourquoi nous allons faire de notre mieux pour que ces gens qui viennent de réprimer d'une manière brutale les manifestants puissent répondre de leurs actes devant la justice.
Nous n'avons pas encore obtenu la réaction des responsables de la police à Beni. Par ailleurs, à Kisangani dans la Tchopo, un calme relatif règne ce mardi dans la commune Mangobo, notamment dans les quartiers Segama et Lindi. Ceci après une nuit troublée par une forte tension entre les jeunes de ces deux entités voisines. En cause, le décès du surnommé Mosepe, leader du quartier Segama, décédé au cours des incidents sanglants de la prison de haute sécurité d'Ossio, lundi, entre 1h et 2h du matin. Selon le bourgmestre adjoint de Mangobo, Jean-Bernard Akaluko, l'intervention de la police a permis de dissuader les intentions belliqueuses des deux camps. Les explications avec Jacques Mkonkole.
L'annonce du décès de Mosepe a été ressentie comme un coup de foudre parmi les siens dans son quartier Segama. Selon des témoins, ses partisans ont voulu s'attaquer aux habitants du quartier voisin de Lindi pour se venger. En effet, le quartier Segama considère le chef des gangs du quartier Lindi, un certain Koba, comme responsable de l'arrestation de son rival Mosepe jusqu'à sa condamnation à mort par la justice. Des éléments de la police informés sont intervenus à temps, empêchant ainsi toute escalade de violence. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Signalons que ces deux quartiers ont vécu à couteau tiré à la suite des exactions et des actes de violence commis dans ces milieux par des gangs sous l'influence de leurs chefs respectifs, poursuivis notamment pour détention et utilisation d'armes à feu, extorsion et association de malfaiteurs. Mosepe fut condamné à mort par la justice militaire il y a environ 3 ans. Il fait partie des 6 détenus tombés sous les balles des gardiens de la prison d'Ossio lors d'une tentative d'évasion. Actuellement, la situation est sous contrôle à Mangobo, assure Jean-Bernard Akalukoto, bourgmestre adjoint de cette entité. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. La Société Nationale d'Électricité SNEL Kasaï Central a réceptionné ce dimanche deux moteurs d'une capacité totale de 1000 kV. Selon Fernand Lukumwena, directeur des réseaux de distribution nationale, ces groupes électrogènes viennent pallier la pénurie d'électricité enregistrée dans la ville de Kananga après la panne des trois moteurs qui assuraient jusque-là son alimentation. Écoutons Fernand Lukumwena au micro d'André Katendengala Mouloumé.
Nous sommes venus ici à Kananga, c'est dans le cadre de l'amélioration de la desserte en électricité dans la ville de Kananga. Alors, il y a un mois, nous avons connu un problème avec deux groupes Perkins installés en 2021. Alors, on n'a pas trouvé ce genre de groupe à Kinshasa pour venir installer directement dans le même circuit. Alors, c'est comme ça que le directeur général Teddy Luamba, dans le cadre de répondre à la vision du chef de l'État, il avait décidé d'acquérir deux groupes de 500 kVA chacun pour l'alimentation de la ville de Kananga. En attendant les travaux de construction des centrales de Katende et de Mbombo, tant que ce n'est pas encore finalisé, la population ne peut pas rester dans l'obscurité. Alors c'est ainsi que le DG continue à faire de son mieux pour arriver à alimenter convenablement la ville de Kananga.
Bonne nouvelle pour les producteurs de pommes de terre de Mbanzangungu dans le Congo central. Après plusieurs années de déclin, notamment en raison des difficultés d'approvisionnement en semences durant la période de la COVID-19, la filière s'apprête à reprendre vie. Un partenariat stratégique a été conclu ce lundi entre Frico Agri SRL et la coopérative Viva Congo. Selon les deux parties, cet accord, qui dépasse le seul cadre agricole, pourrait devenir un véritable levier de développement économique pour la province. À l'échelle nationale, ces deux structures estiment que cette relance contribuerait à réduire les importations, renforcer la sécurité alimentaire et accroître la valeur ajoutée locale, tout en soutenant la diversification de l'économie congolaise. Nana Plurichimambu nous en parle.
Le projet prévoit l'utilisation des semences certifiées, un encadrement technique renforcé et des technologies issues d'une expertise néerlandaise. L'objectif est d'améliorer la productivité, de réduire les pertes post-récolte et d'assurer une présence régulière de la pomme de terre sur les marchés. Une phase pilote débutera en 2026 sur 10 hectares. Les ambitions sont claires. Augmenter les rendements, stabiliser les revenus des producteurs, créer des emplois ruraux et dynamiser les secteurs connexes tels que les transports, les stockages et les commerces. La filière pomme de terre s'est effondrée en Mbanzangungu à partir de 2015. Le déclin s'est aggravé avec l'arrêt des importations de semences pendant la pandémie de COVID-19. Les producteurs avaient tenté d'utiliser les semences provenant de l'est du pays, mais ces essais n'ont pas abouti en raison des conditions climatiques inadaptées. Cette situation a entraîné une raréfaction de l'offre sur les marchés, une dépendance accrue aux importations et une baisse significative des revenus des agriculteurs, alors que la pomme de terre constitue une culture de rente dans la région. Les nouveaux partenariats visent à restructurer l'ensemble de la chaîne des valeurs, de la production des semences à la commercialisation, avec en perspective une transformation industrielle créatrice des richesses. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et puis, dans l'actualité aussi, sachez que la RDC ouvre demain un atelier de deux jours pour réfléchir et lancer les bases d'installation au pays d'un système plus efficace d'alerte précoce contre les risques et les catastrophes. L'annonce de cet atelier a été faite ce mardi ici à Kinshasa, conjointement par le ministre de l'Intérieur et le chef du bureau de l'ONU pour la réduction des risques et des catastrophes dans le monde, arrivé hier en RDC pour une visite de travail de 4 jours dans la capitale congolaise. Écoutons le ministre de l'Intérieur qui explique la situation actuelle du système national d'alerte contre les catastrophes et l'idéal à atteindre rapidement à court terme. Jacques Meshabani au micro de Dona Madimba.
Jusqu'à présent, le gouvernement se comporte de manière à ce que, au cas par cas, événement par événement, il soit mis en place une chaîne de solidarité de prise en charge. Généralement aussi, nous élargissons notre action en faisant appel à solidarité aux différents partenaires techniques et financiers pour un accompagnement. Il y a plusieurs institutions qui nous accompagnent et l'objectif est d'arriver à ce que les concitoyens concernés par cette catastrophe-là se retrouvent dans des conditions qui leur permettent non seulement de résister à la catastrophe, à la situation difficile dans laquelle ils se retrouvent, mais aussi à se relever et à pouvoir dans la communauté, reprendre leur vie normale et poursuivre le cours de leur vie.
Actualité internationale.
En Ouganda, le gouvernement rejette les accusations des répressions politiques. Dans un communiqué publié ce 27 janvier 2026, le ministre de l'Information défend les arrestations en cours et la coupure d'Internet. Il dit agir contre des gangs criminels accusés d'avoir voulu semer les troubles après le scrutin. Le même texte salue la bonne tenue du vote du 15 janvier malgré quelques incidents et félicite le parti au pouvoir pour sa large victoire ainsi que le président Yoweri Museveni pour sa réélection. Une manière de réaffirmer la légitimité des élections alors que l'opposition conteste les résultats et que les critiques se multiplient sur les climats sécuritaires.
L'invité.
Un an après la chute de Goma au mai de l'AFC M23, les blessures laissées au sein de la population restent profondes. À cette occasion, nous donnons la parole à une commerçante de la ville. Victime des pillages et marquée par la violence des combats, elle raconte comment le 27 janvier 2025 a brisé son activité et traumatisé sa famille. Elle répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Comment dans votre famille vous avez vécu le lundi 27 janvier 2025 ?
Une journée... Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de balle, on ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé exactement parce qu'il n'y avait pas moyen de communiquer. Il n'y avait pas aussi de courant. Quand une journée se passe comme ça, on veut avoir la vraie information. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne sait pas. Donc ça crée une peur, ça crée des doutes. On ne sait pas à quel sens c'est voué, donc c'était une journée vraiment sombre.
Votre plus jeune enfant à quel âge?
Mon plus jeune enfant a 5 ans.
Donc l'année passée, l'enfant avait 4 ans. Comment vous aviez passé la journée? On avait mangé à midi?
À la base, le matin, c'était presque normal. Et c'est vers 10 heures que tout a basculé vers chez nous. C'était vraiment un chaos total. Vous imaginez avoir des enfants, parce que le plus jeune avait 4 ans et son frère aîné avait 6 ans. Donc, c'était compliqué. Des garçons à cet âge-là, ça part dans tous les sens. Mais avec les coups de balles, avec des bombes par-ci, par-là, les enfants étaient traumatisés. C'était vers maintenant 11 heures quand le combat s'est intensifié dans notre quartier. Les enfants ont dormi de 11 heures jusqu'à 17 heures. Donc, ils étaient vraiment traumatisés. On a quitté la chambre, on est entré dans des couloirs, on est resté là-bas jusqu'à 17 heures, vous imaginez. Il n'y a pas moyen de préparer la nourriture. Parce que d'abord, le courant n'était pas là. On va utiliser la braise comment? Écouter des coups de balles et allumer encore la braise pour préparer qui va manger? Personne. Donc, vous sentez que c'était vraiment une journée très compliquée.
Comment avez-vous passé la nuit dans la famille?
Bon, la nuit, il y avait des tirs sporadiques, mais la peur au ventre. Qu'est-ce qui va se passer dans la nuit? Est-ce que les gens vont entrer dans les maisons? Qu'est-ce qu'on va faire? Et de ce quoi? Parce qu'il n'y avait pas des informations. On ne pouvait pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc, alors, on dormait avec la peur au ventre. Même les faits, quand il y a le vent, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient venir? Donc, on était traumatisés. Il y a d'ailleurs mon mari qui a fait les crises de tension. Parce que lui, il écoutait seulement la guerre, oui, mais il n'avait jamais vécu ça avec nous à la maison. Maintenant, il était vraiment démoralisé parce qu'il se disait avec les enfants, on va faire comment?
Une année après, quand vous y repensez, c'est toujours très lourd pour vous ou bien c'est comment?
Oui, quand j'y pense, une année, moi je trouve que c'est comme si c'était hier. Parce que tellement nous avons vécu des choses traumatisantes, je n'aimerais pas encore revivre ça. Si aujourd'hui on disait que encore il y a des rumeurs que non, il peut y avoir une guerre et tout, en tout cas moi je ne peux pas encore rester et voir mes enfants traumatisés à ce point parce que même eux jusqu'aujourd'hui, les enfants en parlent. Donc si cette guerre-là était à refaire, en tout cas moi je ne pourrais pas entendre encore les coups de balles ou rester encore ici sur place, non. En tout cas, vaut mieux se déplacer maintenant, se déplacer pour aller au moins ne pas encore y revivre ça. Parce que non seulement on a vécu la guerre, et la journée du 28, j'avais tout perdu. J'ai été pillée, j'étais commerçante, donc là, j'ai tout perdu. On va recommencer comment? Et puis avec la guerre, il n'y a pas de banque, donc on est resté seulement comme ça. Et on s'est dit que En tout cas, la guerre, ce n'est pas bon.
Et qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui sont impliqués dans la recherche de la paix, dans tout ce qu'on vit ici?
Qu'ils ne nous abandonnent pas et que plus jamais la guerre, plus jamais des coups de balle, plus jamais des morts innocentes, plus jamais des pillages et des pertes en vies humaines et matérielles, plus jamais ça. Qui pense à la population civile, nous sommes des innocents, que tous les belligérants qu'ils trouvent intérêt d'entente, c'est pour le bien de la population. Vous ne pouvez pas diriger une population morte, une population traumatisée. Il y a des enfants, les familles ont été séparées, donc on n'aimerait pas que ces choses recommencent encore.
Madame, vous vivez à Goma, merci.
Merci.
Ainsi prend fin ce journal préparé par Alain Hirung et mis en ondes par André Mungu et Dédoné Nyangasa Wanyangasa. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur www.radiokapi.net.